Bonjour Brigitte Laurent, vous êtes
Bonjour.
psychothérapeute, vous êtes dans le sud de la France, près de Narbonne,
Oui, c'est ça.
et vous proposez pas mal d'accompagnements, principalement pour les femmes. D'ailleurs, votre site s'appelle Terre de Femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que vous faites, ce que vous proposez comme service?
Eh bien, je propose des séances de psychothérapie, je dirais classiques, enfin, sachant que je suis thérapeute psychocorporelle. Et je propose aussi de la thérapie de groupe, donc des stages qui sont réservés aux femmes sur des thématiques liées au féminin, mais pas que. Et j'ai aussi des ateliers qui sont accessibles à des personnes qui ne sont pas forcément en thérapie, autour par exemple du cycle menstruel, autour de la préménopause, de la ménopause. Il y en a un aussi sur la femme sauvage. Ce sont des espaces intermédiaires parce que je trouve qu'il y a vraiment des moments de leur vie où les femmes ont besoin d'être accompagnées et qui sont souvent les grands moments de transition, la puberté, la maternité, la ménopause justement, mais pas forcément besoin d'une psychothérapie. Le principe du cercle de femmes, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement puissant et extrêmement soutenant pour les femmes.
J'ai vu que sur votre site, vous parliez de rituels que vous faisiez pour les enfants qui ne sont pas nés. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, peut-être déjà commencer par votre parcours, ce qui vous avait amené à l'époque à proposer ça?
Ce qui m'a amenée à proposer ça, c'est que dans le groupe de thérapie, il y a une personne qui a subi une IMG. Et que, évidemment, ça a secoué tout le groupe. Et qu'à ce moment-là, les femmes se sont mises à parler. Et même des femmes que j'avais en thérapie depuis longtemps n'en avaient jamais parlé. Et elles se sont mises à parler de leurs fausses couches, enfin, des bébés perdus. Et je me suis rendu compte que, mais d'un coup, il y avait une foule de bébés morts qui arrivaient là et qui avaient été complètement passés sous silence. Il se trouve que moi, personnellement, j'ai trois enfants vivants, trois enfants morts, deux fausses couches, une IVG, et que j'avais, ayant vécu ça, alors pas la première parce que j'étais très jeune, j'étais pas encore psy, j'étais pas encore là-dedans, et donc je l'ai vécu avec finalement pas énormément de conscience, mais les deux suivantes, ça a été très, très différent, et je me suis rendu compte à quel point ces morts de bébés pendant la grossesse sont considérées comme pas grand-chose, en fait, comme des non-événements par la société, par le médical, par l'entourage, souvent, et qu'on presse les femmes, bon, allez, on passe à autre chose. Alors qu'en fait, ça laisse des blessures incroyables. Et même, moi, j'ai eu des femmes 20 ans après, quand elles en parlaient, elles étaient en larmes, quand on les écoute. Et quand elles parlent de ce qu'elles ont vécu, et aussi d'une forme de maltraitance de la part du médical, alors qui n'est pas une maltraitance active, mais qui est une non-prise en compte de ce qu'elles vivent et de leur souffrance, une minimisation, en fait, de cet événement. Et donc, suite à ça, j'avais proposé effectivement un rituel collectif sur un week-end pour accompagner ces femmes et pour faire un rituel de deuil, ce qu'elles n'avaient absolument pas fait à l'époque. Et ça a été un week-end, voilà, beaucoup d'émotions, mais très vivant et très réparateur.
Justement, j'allais vous demander, qu'est-ce que vous ont transmis comme message ces femmes après le week-end? Qu'est-ce qu'elles ressentaient comme bénéfice?
Quelque chose de l'ordre à la fois d'une libération et d'un apaisement. J'utilise souvent, moi, cette métaphore-là, mais c'est un peu comme si vous avez une blessure un peu à vif, même si vous vous êtes habitué, elle ne lance pas tous les jours, mais elle est toujours là, et là, c'est cicatrisé. C'est comme un événement de la vie qui reprend sa place, qui reprend son existence. Et en donnant vraiment une place et une existence à ces bébés, il y avait cinq femmes et à elles cinq, elles avaient eu 13 bébés morts. Et en leur redonnant une place, ça fait que du coup, ça apaise la souffrance. Il y a toujours quelque chose qui est là, effectivement. C'est-à-dire qu'on a une cicatrice, hein, ou plusieurs cicatrices, on est tout couturé, mais c'est cicatrisé et on sait bien qu'en termes de résistance, le tissu cicatriciel, il est plus costaud que la peau. Puis aussi, ce qu'elle disait, c'est que enfin, je suis entendue. Je peux dire ce que j'ai vécu et je me sens entendue et j'ai pas en face de moi quelqu'un qui me dit non, mais c'est pas grave, t'en auras un autre, c'est rien, c'était qu'un amas de cellules, ça va passer. Allez, viens boire un coup, ça te changera les idées. Non. L'entourage croit bien faire, hein. C'est vraiment dans une bonne intention la plupart du temps. Mais c'est pas de ça dont ont besoin les femmes à ce moment-là. Et le fait de le faire même avec des années d'écart, on sent que ça a permis de mettre au jour vraiment une zone tellement souffrante.
Et pour vous, la zone, elle était encore tellement souffrante parce que le deuil n'avait pas pu être fait, pas pu être dit.
parce que ça avait pas été, il y avait pas eu l'espace pour. Et puis, c'est tellement pas considéré. On voit bien que rien que pour que l'enfant soit reconnu légalement, il faut quand même déjà un certain nombre de mois de grossesse qui font que beaucoup, il n'y a même pas d'existence légale pour ce bébé. Or, souvent, les femmes, à partir du moment où elles sont enceintes, mais même des fois, même avant, ce bébé, il existe. Alors, d'accord, c'est peut-être pas le bébé réel, c'est le bébé imaginaire, c'est le bébé rêvé, mais il existe. Et donc, même si c'est une fausse couche précoce, elles ont à faire un deuil. Et nier le deuil, et ben, de manière générale, et pas seulement dans ce cas-là, c'est ce qui crée les pathologies du deuil, justement. Comme tout l'entourage leur dit, mais c'est rien, elles finissent par aussi s'en convaincre. Et donc, ben oui, c'est rien.
Qu'est-ce qui peut se passer alors quand vous parlez de pathologie du deuil? C'est quoi les conséquences si on ne fait pas ce travail de reconnaissance?
Ben, c'est un petit peu comme chaque fois qu'on a un peu une blessure du corps et qu'on la soigne pas, hein. Ça influe sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et puis, ça peut avoir des conséquences sur les enfants suivants. C'est-à-dire que si vous avez perdu un enfant in utero, ben, il a imprégné l'utérus de sa présence, de ses énergies. Et si le deuil n'est pas fait, le bébé qui vient après, il s'imprègne d'un deuil pas fait. Et il peut donc après porter cette souffrance qui n'a pas été vécue, exprimée par la mère et qui donc reste un peu enquistée. Et l'utérus, c'est l'organe des mémoires. Hein. L'utérus ne sert pas seulement à contenir et à produire un bébé. C'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est l'organe de mémoire transgénérationnelle. Et l'utérus, il garde la trace énergétiquement de tout ce qu'on se donne à vie dans notre sexualité au sens très large. Et une maternité, ça fait partie de notre sexualité, bien sûr. Et donc, l'utérus dans lequel le bébé d'après va baigner, il est porteur de cette souffrance non exprimée.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un travail énergétique pour nettoyer?
Il y a plein de dimensions. Il y a déjà le travail psychologique. Hein. On sait bien, on est dans une société où il y a de plus en plus de pathologies du deuil, justement, parce que le deuil, quand on perd quelqu'un, bon, bah, c'est OK, pleure un peu, mais enfin pas trop, quoi. Mm-hmm. Hein, voilà, reprend la vie, retourne dans la vie, fait comme si c'était rien passé. On laisse plus aux gens le temps de vivre ce processus de s'effondrer, mais de s'effondrer sainement, c'est-à-dire de s'autoriser à pleurer, et puis, je sais pas moi, peut-être pendant quelques jours, pas se laver, pas manger, mais vraiment se laisser aller au chagrin qui est là, parce que la souffrance, pour la dépasser, il faut accepter de la traverser. Et du coup, quand on n'a pas vécu ça, eh ben, on traîne un deuil non fait. Et souvent, ce qui se passe, c'est que bon, on fonctionne tant bien que mal, hein, quand même. Mais si jamais on est en contact avec un autre deuil, alors là, ça fait remonter tout ce qui n'a pas été soigné à ce moment-là. Donc, je dirais que quand il y a un deuil, et effectivement, la caractéristique d'un bébé, c'est que c'est la mort de quelque chose qu'on a dans notre corps. C'est quelque chose de vivant qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est quand même pas la même chose que de perdre quelqu'un qui n'est pas nous, qui est extérieur à nous. Donc, il y a la dimension psychologique qui est présente. Il y a la dimension organique qu'on ne trouve pas dans un autre deuil. Et il y a effectivement la dimension énergétique. Et c'est vraiment sur ces trois dimensions-là qu'il faut agir et être accompagné. Mais déjà, juste d'avoir un espace où on peut dire, où on peut exprimer sa souffrance, alors avec des mots ou sans les mots, parce qu'il n'y a pas que les mots qui permettent de s'exprimer. Déjà, ça, c'est aidant pour les femmes. Et qu'on les autorise à être tristes, qu'on les autorise à ressentir ce qu'elles ressentent à ce moment-là.
Et pour quelles raisons, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, on ne les autorise pas vraiment à exprimer cette tristesse?
Vous savez, on est dans un monde où vous êtes triste, prenez des antidépresseurs, vous êtes angoissé, prenez des anxiolytiques, vous êtes malade, prenez des antibiotiques, enfin, voilà, mais faites ce qu'il faut pour fonctionner, quoi. On est dans un monde de manière générale qui nous impose un peu d'être tout le temps dans fonctionner. Alors, on se casse la figure, ouais, bon, vite, allez debout et on reprend le chemin. Je pense que ça fait partie de ça. Et puis, il y a eu. Alors là, moi, j'y vois une dimension supplémentaire qui est quand même que, de manière générale, la souffrance des femmes dans ce qui est lié à leur corps de femme, elle est quand même extrêmement minimisée et peu prise en compte. Quand on voit le temps qu'il a fallu pour qu'on prenne au sérieux l'endométriose, je pense que tout ça mis ensemble, ça peut expliquer Puis je crois qu'il y a vraiment une indemnisation. Bon, c'est pas si grave, quoi. Le nombre de femmes qui se sont entendues dire, mais ce n'était qu'un amas de cellules.
Et vous, vous en pensez quoi? C'est quoi pour vous, vous qui avez aussi vécu ça?
Alors, ça, c'est mes croyances personnelles, évidemment. Hein, quand on touche au début de la vie, à la fin de la vie, à la naissance, à la mort, j'accueille alors vraiment toutes les croyances. J'accueille les personnes avec les croyances qu'elles ont. Après, moi, je nomme les miennes, parce que c'est aussi à partir de là que je me positionne. Pour moi, à partir du moment où il y a conception et même presque avant, il y a, alors je vais utiliser le mot âme, mais il n'y a rien de religieux dans ce que je dis. Enfin, il y a de la vie, il y a quelque chose qui cherche à s'incarner et à vivre. Donc pour moi, à partir du moment de la conception, il y a effectivement une présence, une âme, quelque chose qui est là. Par contre, et ça c'est hyper important, parce que le problème quand on dit ça, c'est que ça peut être très mal interprété et utilisé de manière très toxique. Pour moi, l'avortement est un droit inaliénable des femmes. Ça, voilà. Et ce n'est pas parce que je considère qu'un jour, un jour après la conception, il y a vie que je suis contre l'avortement. Pour moi, on a toujours le droit de dire non à une âme, à une vie qui cherche à s'incarner. Et des fois, c'est ce qu'il y a de plus juste pour soi et aussi pour cette petite âme-là. Quand on sent qu'on ne peut pas lui apporter ce dont elle aura besoin, bah, des fois, c'est juste aussi pour cette petite âme qui vient. Cette petite âme-là aussi, elle a le droit de dire non. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait à certains moments, quand il y a une fausse couche. Ou... Donc, vous savez, c'est Dolto qui disait qu'une conception, c'est la rencontre de trois désirs, celui de la mère et du père, mais aussi de l'enfant. Et je pense qu'effectivement, tout le monde a un petit peu son mot à dire et qu'en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux qui nous échappe complètement à cet endroit-là. Et je trouve que c'est très bien. Enfin, c'est très bien, ça peut être douloureux, mais en même temps, c'est bien qu'il y ait des choses qui nous échappent. Et on voit bien qu'on ne maîtrise pas et comment on peut avoir un réel désir d'enfant et puis il n'y a pas d'enfant qui vient et puis ne pas le désirer, il vient. Enfin...
Et tout ça, comment ça peut s'expliquer? Parce que tout à l'heure, vous parliez du transgénérationnel qui est quand même important quand on parle de reproduction. Donc, quand un désir d'enfant est très fort, mais n'arrive pas à aboutir, selon vous ou vos croyances, ce serait lié à quoi, par exemple?
Alors là, c'est pas que des croyances, parce que c'est aussi, je dirais, de l'expérience. Alors après, c'est pas une, tout ce que je vous dis, c'est pas une vérité scientifique prouvée, mesurée en laboratoire. C'est plus un témoignage de ce que j'ai pu expérimenter et puis de tout ce que m'ont transmis toutes les femmes que j'ai pu accompagner. Quand a priori il n'y a pas de problème organique. Et que l'enfant ne vient pas, effectivement, moi, je vais aller investiguer d'abord dans l'histoire personnelle de la femme. Parce que si jamais il y a une problématique d'abus, par exemple, ou qu'il y a des traumas dans l'enfance, ça peut expliquer que ça bloque une maternité. Donc, dans un premier temps, je vais aller regarder à cet endroit-là. Après, effectivement, on peut aller regarder dans le transgénérationnel, parce qu'on peut imaginer, par exemple... une arrière-grand-mère qui est morte en couche, une grand-mère qui a failli mourir. Enfin, tout ça, ça peut faire qu'inconsciemment, consciemment, on a un désir d'enfant, mais inconsciemment, ça dit non, être enceinte, c'est mourir. Et donc, forcément, ça bloque la possibilité d'une conception. Bon, c'est un exemple un petit peu simpliste, là, mais c'est pour illustrer. Après, moi, je me rappelle d'une femme que j'ai accompagnée au tout début, quand j'étais jeune psychothérapeute, qui voulait un enfant puis n'arrivait pas à en avoir. Et donc, j'avais commencé par investiguer son histoire perso. Effectivement, il y avait eu quelque chose d'un peu dur à l'adolescence. On avait travaillé dessus, mais il se passait toujours rien. Et puis, un jour, elle était arrivée et elle me dit « Oh là là, je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre, j'ai mes règles. » Elle avait très, très mal. Et là, je lui ai dit de dire « Mais qu'est-ce que vous imaginez qui se passe dans votre corps ?» Qu'est-ce que... Et elle me dit « Ah, ben, les règles, c'est les ovaires qui dégorgent. » Alors déjà, évidemment, quand on a cette représentation-là de ce qui passe dans son corps, forcément, c'est assez normal qu'on ait mal. Alors du coup, j'étais allée investiguer et je lui avais demandé de me dessiner ce qu'elle imaginait avoir à l'intérieur. Et en fait, ce qu'elle m'avait dessiné, c'était une espèce de grand tuyau, comme un cylindre. C'est-à-dire, il y avait l'entrée de son sexe et après, ça partait comme un cylindre et ça ne s'arrêtait pas. Et donc, son vagin, son utérus, tout était dans la continuité. L'utérus n'était même pas fermé. Ce qui faisait, du coup, je me suis rendu compte, elle m'en avait pas parlé, qu'elle avait de grosses difficultés à avoir des rapports sexuels avec pénétration, on imagine bien. Donc, évidemment, pour une conception, c'est compliqué. Et puis, elle ne pouvait pas avoir un bébé puisqu'elle avait un utérus qui n'était pas fermé. Enfin, il ne peut pas y avoir un bébé dans, dans un tuyau, ce n'était juste pas possible. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Je lui ai expliqué un petit peu comme dans le transfert et puis comme une maman expliquerait ou devrait expliquer à sa fille. Et puis après, on s'était rendu compte aussi qu'elle ne pouvait pas prendre le risque d'avoir une fille.
Ah bon ?
Les filles, c'était trop nul, c'était trop dangereux. Les filles, c'était... Ah non, c'était pas possible. Les filles, c'était horrible, les filles. Et ça, elle portait ça de façon transgénérationnelle. C'était vraiment une croyance qu'être une fille, c'était vraiment beaucoup moins bien qu'être un garçon. Donc, il y avait toutes ces raisons-là qui faisaient qu'elle ne pouvait pas être enceinte. Et puis finalement, elle a été enceinte et elle a eu une petite fille. Et ça s'est très bien passé. Elle me l'a amenée pour me la présenter. Donc ça, c'est un exemple. On voit bien comment il y a plein de raisons qui s'enchevêtrent.
Oui, donc les causes, selon vous, peuvent être psychologiques parce que les médecins ont tendance à croire que ce n'est que de l'ordre du biologique si on n'arrive pas à tomber enceinte.
Ah non, non, non. Bah non, on le voit bien puisque des fois, le biologique va bien et il ne se passe rien. Donc non, non, il y a plein d'autres causes qui interviennent. Et souvent, c'est multifactoriel.
Quand je fais des interviews de personnes qui témoignent, il y a toujours cette question de savoir à quel moment est-ce qu'on devient mère. Et je sens qu'il y a vraiment un gros malaise par rapport à ça. Beaucoup, en fait, se sentent mères dès qu'elles sont enceintes, mais elles n'osent pas le dire à leur entourage, qui considèrent que si l'enfant n'est pas né, elles ne sont pas mères. Donc, au niveau, je ne sais pas moi, spirituel ou autre, vous, tout à l'heure, vous disiez, vous considérez qu'il y a vie, même peut-être même avant la conception. Vous, vous considérez, vous avez dit tout à l'heure, mère de plusieurs enfants, dont ceux qui ne sont pas nés.
Ah bah oui, c'est des enfants, enfin, ils ont une existence, enfin, ils ont un prénom, ils ont... Alors effectivement, ça a été des vies minuscules, ça c'est le terme de Marie de Henzel, elle parle de ces vies minuscules, mais qui... Enfin moi, ils ont changé ma vie, chacun de ces enfants-là. Chacun de ces enfants, pour aussi minuscule qu'ait été sa vie, en termes de durée, a eu un impact. Ma construite fait ce que je suis aujourd'hui, de même que mes trois enfants vivants aussi, je me suis construite avec eux. Donc, oui, c'est différent, bien sûr, mais ça a un impact. Après, sur le fait de se sentir mère, on peut se sentir mère avant même qu'un enfant soit conçu. Et ça peut être long aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de se sentir mère, mais il s'agit de se sentir mère de notre enfant, ce qui n'est pas la même chose. Et on n'est pas la même mère pour ces différents enfants. Et à chaque fois, même si on a eu l'expérience de la maternité, il y a quelque chose à construire avec cet enfant qui est là. Et déjà, quand ils sont dans le ventre, ils sont différents. Moi, je sais, j'en ai eu trois, ce n'était pas les mêmes. Je sentais déjà que ce n'était pas les mêmes. Et je n'interagissais pas de la même façon avec eux. Ils ne réagissaient pas de la même façon quand je les sollicitais, quand je leur parlais. Enfin, la relation, déjà à ce moment-là, elle était différente.
Quand on n'a pas pu rencontrer ces bébés, c'est difficile de savoir quel type de mère on aurait pu être avec lui ou...
Ça, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire qu'avec les bébés morts, on ne peut pas savoir. Puisqu'il n'y a pas eu cette relation, ne s'est pas tissée, même s'il peut y avoir eu une relation pendant le tout début. Ça a été un début de rencontre et puis qui ne s'est pas poursuivi, en fait. Donc non, on ne peut pas savoir, mais il y a être mère. Bon, alors on est mère le jour où on a accouché d'un enfant, paf, ça y est, officiellement, pour le social, on est mère. Et il y a se sentir mère. Et on peut se sentir mère sans avoir d'enfant. C'est Racanier qui avait inventé ça, le concept de maternalité. C'est la maternité, mais pas forcément avec un enfant réel. Toutes les femmes ne font pas l'expérience de la maternité, c'est-à-dire ne pas forcément au monde un enfant, mais par contre, toutes les femmes peuvent faire l'expérience de la maternalité.
Qui est décrite comme
Je dirais que c'est ce qu'on met au monde, c'est ce qu'on crée. Et ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Ça peut être une création, ça peut être... vous voyez, c'est ce qu'on met au monde à partir de nous, c'est notre créativité. Et effectivement, avec notre utérus, on peut créer un bébé qui va nous prendre quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans notre vie. On peut aussi créer tout un tas d'autres choses. Tu vois, on peut créer une association, on peut écrire un livre, on peut... c'est multiple, quoi. Et c'est le même processus. Dans la formation du psychothérapeute que j'ai fait, il y a tout un processus autour de la naissance. qui permet aux personnes de revisiter tout leur processus de vie fœtale et de naissance. Et ça démarre avant la conception. Et il y a toute une revisite de leur conception. Il y a un certain nombre d'étapes. Il y a 5 étapes jusqu'à la naissance. Et ben, ce processus en 5 étapes, c'est celui qu'on retrouve et qu'on va utiliser quand on fait travailler les personnes, par exemple, sur un projet. Mm-hmm. Il y a quelque chose de similaire. Donc, on peut avoir des enfants réels et puis on peut avoir des enfants symboliques. Et donc, on peut se sentir, on peut être maternel. D'ailleurs, les hommes aussi peuvent faire l'expérience. Un homme peut être dans une dimension maternelle, heureusement, et une femme peut être dans une dimension paternelle.
Et on peut aussi être dans une dimension maternelle avec des enfants autres que les nôtres.
Bien sûr, et on est dans une forme de transmission à cet endroit-là. On est dans de la transmission maternelle, bien sûr. Donc, il y a mille et une façons de se sentir mère. Et d'ailleurs, il y a des femmes, elles ont accouché, elles ont un enfant réel et elles ne se sentent pas mère. C'est pas quelque chose que je fous comme ça, ça vient d'un coup. Non, on est toutes différentes. Et je pense que si on a besoin de vivre la maternalité, on n'a pas besoin de la vivre de la même façon. Et puis, quelque part, il faudrait un petit peu lâcher les baskets des femmes et les laisser vivre comme elles le souhaitent, quoi, avec ou sans enfants, avec ou sans poils. Enfin, qu'on lâche un petit peu les injonctions qui pèsent sur elles. Et là aussi, il y en a beaucoup. Hein. Et après, pour revenir sur cette histoire, alors là, plus sur la grossesse réelle, il y a une tradition, alors je me rappelle plus dans quel pays, qu'on compte l'âge d'un enfant à partir du moment où il a pris naissance dans l'esprit de sa mère.
Wow.
Et donc, des fois, des années avant d'être conçu. Voilà, il prendrait naissance à ce moment-là.
Ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de croyances, et je ne vais pas citer de noms, mais de personnes, effectivement, qui m'ont parlé aussi que c'est même au moment de la rencontre des parents, par exemple.
Oui. Et là, effectivement, on est devant un grand mystère, parce qu'on ne sait pas. Hein, c'est vraiment ce grand mystère de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après.
Mais vous pensez que ces enfants qui ne sont pas nés, c'est peut-être des âmes qui avaient une autre mission que celle de s'incarner sur cette terre ?
C'est peut-être des âmes qui avaient une autre mission que de s'incarner chez nous. C'est-à-dire que elles sont venues nous apporter quelque chose. Et effectivement, les personnes qui ont vécu ça, souvent, qui l'ont vécu en conscience, pour douloureux que ça est, moi, il y a vraiment des personnes, il y a un avant, il y a un après, et après, elles remercient cet enfant-là d'être venu. Elles sont tristes qu'il ne soit pas resté, hein, mais elles acceptent qu'il ne soit pas resté, mais elles le remercient d'être venu parce que vraiment, ça a eu un impact dans leur vie. Moi, j'ai une personne comme ça qui a perdu sa petite fille à 7 mois de grossesse et qui donc est arrivée en thérapie suite à ça. Et pour qui cet enfant-là, et elle la remercie, ça a été une ouverture complète à la vie. Elle était en train de mourir à petit feu presque, je ne sais pas, et ça l'a complètement réveillée et éveillée à la vie et au monde. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé en elle. Et elle remercie cet enfant de ça.
Et comment on peut l'expliquer, ça ?
Bah, c'est compliqué à expliquer. Je crois que, de même que nous, à un moment, on peut choisir, on peut être enceinte et choisir de ne pas donner la vie. Je crois que ces petites âmes, certaines, elles viennent juste faire un petit tour pour nous secouer un peu ou pour nous apporter un message ou je ne sais pas quoi. Moi, je fais l'hypothèse qu'elles trouveront une incarnation ailleurs, à un autre moment, avec d'autres parents.
Autant je peux comprendre qu'effectivement, ça a quelque chose de libérateur de se dire qu'elles n'avaient peut-être pas comme finalité de s'incarner. Autant se dire qu'elles vont peut-être trouver des parents chez d'autres. Oh, je trouve ça triste de se dire, j'ai pas convenu, c'est moi le problème, je ne sais pas.
Ah oui, alors non. Alors là, non.
Allez, hein.
Ah, non. C'est pour ça que c'est extrêmement délicat de parler de ça.
Ouais.
Vous voyez bien comment très vite, hop, vous pouvez tomber dans de la culpabilisation. Vous voyez, c'est pour ça que j'essaie de faire très attention à ce que je dis. C'est pas du tout, j'ai pas convenu. Il y a une rencontre qui s'est pas faite. À ce moment-là, ça devait pas être ça. Et c'est pas plus vous qui avez pas convenu que le père qui a pas convenu, que cette petite âme-là qui a pas convenu. C'est juste que cette rencontre des trois n'a pas pu se faire.
Oui, ou alors elle s'est faite autrement que ce qu'on imagine qui doit être une naissance.
Voilà.
Quand vous parlez de ce cas qui a réveillé cette dame, je me dis, il y a eu une rencontre karmique. Parce que pour avoir un tel
changement. Oui, certaines. Oui, mais effectivement, si vous croyez au karma, c'est quand même une explication. Oui, je pense qui fait que voilà, cette petite âme, elle vient faire un petit tour. Elle a un message à délivrer, quelque chose, mais elle n'avait pas pour vocation de rester. Il y a des choses dans la vie, le sens est donné. Il y a des deuils, le sens est donné. Par exemple, à la puberté, vous devez faire le deuil de l'enfance, mais c'est pour accéder à l'âge adulte, à une autre dimension. Vous voyez, donc il y a un deuil à faire, mais il a du sens, ce deuil-là. Et il peut être difficile si les circonstances qui l'entourent ne sont pas soutenantes. Mais il a du sens. Alors que quand il y a la mort comme ça d'un bébé in utero, le sens, il n'est pas donné. Vous voyez, le sens n'est pas là. Alors, on cherche un sens. Parce que, effectivement, quand il n'y a pas de sens, c'est très, très dur. Et chacun va essayer de mettre un sens. Et d'une personne à l'autre, ça ne va pas forcément être le même. Ce qui est important, c'est vraiment d'aider les femmes à ne pas tomber dans la culpabilisation à ce moment-là, parce que les femmes, c'est toujours pareil. Elles ont beau savoir que c'est pas ça, mais oui, mais peut-être j'ai mangé un truc qui, oui, mais j'avais fait du vélo, j'aurais pas dû. Enfin, forcément, c'est de leur faute. Et donc, faut absolument aider les femmes à pas tomber là-dedans. C'est déjà suffisamment dur de vivre ça. On va pas en plus la double peine, se flageller et se sentir coupable. Quelle que soit la croyance et le sens que met la personne, le sens de c'est moi qui suis pas faite pour être mère, qui suis pas assez ci, pas assez ça, voilà. Non, ça faut vraiment être très attentive à écarter ça. Et faire attention parce que des fois le corps médical peut appuyer à cet endroit-là. Hein. Des fois des remarques pas très délicates.
Et c'est pas le but en effet.
Non, c'est déjà suffisamment douloureux comme ça. Le souci, c'est que le pourquoi, on ne l'a pas. On ne l'aura jamais exactement.
Vous m'expliquez qu'un des outils que vous utilisez aussi souvent quand vous faites des stages comme ça, c'est vous demander aux femmes de représenter leur appareil reproductif génital, je ne sais pas comment vous l'appelez, au début et puis à la fin. Vous pouvez expliquer ça ?
Effectivement, c'est dans l'atelier Fleur de Lune. Au premier atelier, je leur demande de me dessiner. Alors, je reste très vague dans la consigne. Hein. Leurs organes génitaux, je leur dis bien, hein, je ne vous demande pas de me faire un schéma des organes féminins. Non, les vôtres. Comment vous imaginez les vôtres ? Ça peut être symbolique, ça peut être… Voilà. Et elles font un dessin. En général, ça donne des dessins assez petits qui prennent juste un petit bout de la feuille au crayon de couleur. Alors ça, c'est vraiment le cas le plus douloureux que j'ai eu. Une personne, c'était blanc. Pour elle, il n'y avait rien. C'était vide. Et des fois, c'est un petit point noir. Mais des fois, c'est… Et évidemment, à la fin de l'atelier, je leur donne la peinture et une plus grande feuille et je leur demande de me dessiner l'intérieur. Et oui, c'est vraiment le cas de le dire, il n'y a pas photo. Ça se voit tout de suite. Alors d'abord, il y a beaucoup plus de couleurs, ça a pris de l'ampleur, ça occupe toute la feuille de manière générale. Et on voit des transformations… Il y a des personnes sur qui vraiment c'est waouh, le jour et la nuit, quoi. Il y a vraiment quelque chose là qui s'est ouvert. Et les dessins, ils ont cet avantage qu'ils permettent vraiment de voir l'évolution d'une personne. Quand on regarde les dessins, moi, je fais beaucoup dessiner, et même les personnes en thérapie, on met les dessins, vous voyez, on imagine qu'on met tous les dessins par terre, là, du début à la fin de la thérapie, en chronologique, on voit l'avancée de la personne. Mm-hmm. On se rend compte, il ne faut pas grand-chose finalement pour qu'une femme apprenne à aimer son corps.
Mais pratiquement une validation extérieure comme vous leur donnez aussi.
Oui, il y a ça aussi, ouais, tout à fait. Et ça change la vie. Moi, ce qui m'a frappée vraiment dans le début de la pratique, c'est aussi à quel point les femmes, y compris les femmes très instruites, un bac plus tout ce qu'on veut, ont une méconnaissance totale de leur corps et de ce qui se passe dans leur corps. Et le nombre de fois où j'ai dit à une femme, mais qu'est-ce que vous imaginez qui se passe dans votre corps et qu'elle a ouvert la bouche, comme ça, eh bien… Ben, en fait, je sais pas. Alors, je sais que si j'ai mes règles, c'est parce qu'il n'y a pas de bébé, ça, voilà. Mais sinon, ce qui se passe, le cycle, et même les organes. Moi, j'ai eu une femme enceinte, elle était à son deuxième, et elle avait de grosses douleurs, et je lui demande de me dessiner son ventre. Et ben, elle me dessine son utérus, machin, et le bébé, elle me le dessine en dehors de l'utérus.
En dehors?
Il était à côté, dans le ventre. Et c'était son deuxième enfant.
Waouh.
Je me suis dit, mais c'est pas possible.
Je vous confirme, hein, en PMA, j'ai vu beaucoup de femmes qui ne connaissaient pas du tout le fonctionnement du corps et je suis très surprise de voir qu'à l'école, on ne nous apprend pas comment fonctionne le véhicule principal dans lequel on va passer notre vie.
Alors, le souci, c'est qu'on l'apprend à l'école et c'est la façon dont on l'apprend. C'est-à-dire que moi, je me suis interrogée, me dire, mais comment ça se fait que ces femmes qui ont toutes eu des cours reproduction sexuée, éducation sexuelle, etc., voire même après qu'on fait des études de bio, mais comment elles ont une méconnaissance aussi terrible de leur corps alors qu'elles ont eu l'information scientifique. Et l'hypothèse que j'ai, moi, eh ben, c'est, vous voyez, c'est un petit peu comme les bébés dans les orphelinats. Mmh. Les bébés qui sont dans les orphelinats et qui se laissent mourir. En fait, ils ont à manger. Ils sont nourris, mais ils prennent pas. Pourquoi ? Parce que la nourriture, ça ne suffit pas. Parce que pour qu'un bébé puisse prendre la nourriture et s'en servir pour grandir et se développer, il a besoin d'un contenant, il a besoin d'être dans des bras, il a besoin d'être entouré d'amour. Mmh. Il a besoin de ça. Et s'il n'a pas ça, ben même s'il a le lait, ça ne passe pas. Cette information, elle est délivrée de façon tellement technique que ça ne passe pas. Mais imaginez, vous êtes dans une classe mixte et là, on vous montre les organes des femmes. Alors, en général, il faut voir les planches. Enfin, qui a envie d'avoir ça, vous voyez, dans son ventre? Et puis, on vous dit, ah ben là, vous voyez, c'est les trompes de Fallope. Alors, déjà, les trompes. Et les trompes de Fallope. Il n'y a pas une fille dans l'assistance qui a envie d'avoir des trompes de Fallope. Je ne peux pas faire le lien entre ce truc que je vois et ce que j'ai dans mon corps. Je ne peux pas me l'approprier. Et moi, j'explique comme ça le fait que, effectivement, ça ne passe pas. Et quand après, on reprend ça dans les cercles de femmes, où là, il y a justement ce contenant, où il y a de la bienveillance, où il y a tout ce qu'il faut. Alors bon, moi, je la donne de manière un peu différente. L'info, elle passe. Ah ouais. Moi, les trompes de Fallope, j'ai des photos de trompes de Fallope. Alors, je les montre sans dire ce que c'est. D'abord, je ne dis plus trompe de Fallope, je dis trompe utérine ou conduit utérin. Et en fait, quand vous regardez la photo, on dirait, tout le monde me dit, oh, c'est des coraux, c'est des algues. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et puis, on voit l'ovule niché dans la trompe. On a l'impression que c'est du velours, ça fait un écrin de velours. Et tout le monde, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et je ne sais pas, vous voyez, ça, c'est vos trompes utérines. Oh ouais, ah ben ça, je veux bien avoir ça à l'intérieur. Et je dis, moi, depuis que j'ai vu ces photos, quand je pense à mes trompes, je les imagine en train de danser à l'intérieur de mon ventre, en train d'onduler. Et il peut y avoir, en admettant qu'il y a une trompe bouchée, une seule qui fonctionne, celle qui fonctionne peut aller récupérer l'ovule de l'autre côté. C'est magique, vous voyez. Et là, quand vous savez tout ça, ouais, vous êtes contente d'avoir des trompes utérines. Là, vous pouvez vous l'approprier. Là, il y a quelque chose. Et quand on met du sens sur ce qui se passe, quand on vous parle de votre cycle et pas seulement de vos règles, parce que souvent, le cycle menstruel est dû aux règles, quand on vous explique à quel point c'est une richesse, à quel point c'est un atout, et comment c'est vraiment, le cycle menstruel peut être vraiment un système de guidance après, comment il participe à notre bonne santé, enfin comment c'est, bon, un corps de femme, c'est formidable, un corps de femme, c'est une merveille, c'est un trésor. Hein, dans l'inconscient collectif, le corps de femme, c'est quand même en tes souffrances. Tu accoucheras dans la douleur et encore beaucoup de choses qui sont comme ça dans l'inconscient collectif et puis que c'est honteux. Et du coup, la grande majorité des femmes, alors de moins en moins, vivent leur corps de femme, je dirais au mieux dans l'indifférence, et puis souvent dans la honte, dans la souffrance. Et s'il y a autant de souffrance, par exemple, autour des règles et du cycle et ce fameux syndrome prémenstruel, en leur montrant, en leur expliquant comment ils fonctionnent, en leur expliquant ce qui se passe pendant leur cycle, en entrant en lien avec son utérus, en parlant à son utérus. Voilà, bah oui. Mais quand on parle avec son utérus, il se passe des choses extrêmement intéressantes. Et donc, en faisant ce chemin-là et avec d'autres femmes, et ça développe une relation à leur corps complètement différente. Ça leur donne une assurance, une confiance en elles. Ça les aide à prendre des décisions, à s'affirmer, à oser, à être plus créative, à faire bouger leur vie. J'ai énormément de femmes qui changent professionnellement, qui font des changements professionnels et qui s'orientent beaucoup vers les métiers de l'accompagnement et puis vers tout ce qui est créatif. Mais pas que, voilà. Et donc, il y a vraiment le fait de se réconcilier avec son corps, d'apprendre à l'aimer. C'est incroyable comme ça ouvre l'espace pour les femmes et comment elles se sentent légitimes dans ce qu'elles ressentent et comment elles s'autorisent. Et quand elles ont besoin de repos, elles se donnent du repos. Et puis voilà, et c'est comme ça. Et elles n'ont pas à justifier, elles n'ont pas à se sentir coupables. Et les femmes, même, elles apprennent à utiliser leur cycle. Elles vont programmer. Moi, je ne sais pas si vous avez une conférence à faire. Je vous conseille de la faire en prémenstruel. Et donc, on se rend compte que quand on apprend à respecter ses énergies, c'est un mot que je n'aime pas du tout, efficace, productif, mais n'empêche qu'on est beaucoup plus efficace. Quand on fait les choses à un moment où on n'est pas dans l'énergie pour ça, elles sont très coûteuses, elles nous prennent du temps, d'énergie, puis on n'est pas satisfaite de nous. Alors que si on attend d'être dans la bonne énergie, c'est-à-dire qu'on arrête de nager à contre-courant, ben en fait, c'est pas si coûteux que ça. On fait et on fait beaucoup plus facilement en y consacrant moins de temps et ça nous prend moins d'énergie. Et ce qu'on nous a appris à considérer comme un handicap, c'est-à-dire notre corps de femme, eh ben ça devient un atout. Une femme qui a été bien accompagnée à la puberté, mais pas seulement parce qu'on lui a bien expliqué, mais enfin qui a eu les infos, à qui on a expliqué à quel point son corps c'était une merveille, c'était un trésor. Et qui donc forcément a mieux vécu l'arrivée de ses premières règles, etc., qui a pu vivre sa puberté dans la joie et dans la fierté, elle va aborder, c'est une préparation à la maternité en fait, le cycle menstruel. Et quand elles ont pu l'aborder de manière positive et être accompagnées dans ce long passage qu'est la puberté, elles abordent la maternité d'une manière différente. Et là aussi, beaucoup plus en conscience, beaucoup plus de manière positive. Et puis, mais notre corps, quand on a pris l'habitude de le respecter, quand on a pris l'habitude de l'écouter, il est beaucoup plus coopératif. Et donc, il est beaucoup plus coopératif quand, par exemple, il y a une maladie, il y a une souffrance, quelque chose comme ça. Mais il va être aussi plus coopératif dans un projet de maternité, je pense.
Et pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir jusque dans le sud de la France, qu'est-ce que vous leur conseillerez peut-être déjà à court terme pour se réconcilier un peu avec leur corps ?
Il y a des livres. Moi, quand j'ai démarré, il n'y avait aucun livre en français. J'ai dû tout aller chercher dans la littérature anglo-saxonne et puis sur des blogs, sur des sites beaucoup australiens, anglais un peu et américains. Maintenant, il commence quand même à y avoir des choses. Et puis peut-être d'essayer de chercher si dans leur zone géographique, il y a des cercles de femmes, il y a un accompagnement sur ce sujet-là. Moi, je déconseille les programmes tout faits sur Internet, c'est-à-dire les trucs où vous êtes toute seule avec votre programme, vos vidéos, vos trucs, quoi.
Et pour quelle raison ?
Pas parce que vous vous retrouvez toute seule. Mm-hmm. Alors, il est où le contenant ? Il est où l'affectif ? Elle est où la bienveillance ? Enfin, vous voyez, il est où ce contenant qui fait justement que il se passe quelque chose.
Oui.
Donc ça, en visio, dans un groupe en visio, vous pouvez arriver à le recréer. Mm-hmm. Mais quand c'est un programme sous forme de vidéo, de texte, de choses comme ça que vous faites toute seule dans votre coin, vous êtes toute seule dans votre coin.
Et du coup, si vous vouliez dire une dernière chose à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui sont dans un désir d'enfant qui vraisemblablement est compliqué, quel est le message que vous auriez envie de leur dire pour clôturer cet entretien ?
De se rapprocher de leur corps, vraiment. D'essayer vraiment de l'écouter, de l'apprivoiser, et d'aller essayer de sentir ce qui se passe plutôt que comprendre ce qui se passe. C'est quand on y va avec notre mental, finalement, on arrive très vite aux limites. Et donc, d'essayer peut-être d'être plus dans une autre dimension et puis de se faire accompagner. Essayer de trouver quelqu'un qui, justement, va avoir une approche un peu pluridisciplinaire, pas forcément dans le médical, justement, mais qui va pouvoir aller les aider à investiguer un petit peu ce qui se passe dans leur relation à leur corps, dans leur histoire, dans leur transgénérationnel. Essayer de trouver ce qui vient faire frein. Et des fois, malgré tout ça, on ne lève pas les freins. Des fois, après, il faut accompagner les femmes à faire le deuil de la maternité.
Qui est encore un autre deuil, en effet.
Oui, qui est encore un autre deuil.
Mais qu'on peut dépasser, comme vous le disiez, en étant dans une autre forme de création, la maternalité.
Oui, et puis, vous savez, alors elle n'est pas de moi, cette petite phrase. C'est autour du cycle menstruel, c'est-à-dire que chaque mois, quand on est dans sa période de femme fertile, on a le choix. Soit je donne naissance à un enfant, et donc à qui je vais consacrer pas mal d'années de ma vie, mon temps, mon énergie, soit je me donne naissance à moi-même. Et à chaque fin de cycle, ce nouveau cycle, C'est une opportunité pour me donner naissance à moi-même.
C'est beau, j'aime beaucoup cette idée de se donner naissance à soi-même. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos éclairages. C'est très intéressant d'avoir un autre regard par rapport à tout ça.
Ben, merci à vous aussi d'avoir, de m'avoir donné cette occasion, parce que c'est vrai que j'aime bien transmettre, et puis si de plus en plus de femmes pouvaient avoir ce regard-là sur elles-mêmes, ça serait vraiment chouette, et je pense que ça changerait le monde aussi.